Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Eric Emmanuel Schmitt, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes romancier, dramaturge, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 48 langues et joué dans plus de 50 pays. Vous êtes l'un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. Vous êtes également membre de l'Académie Goncourt depuis 2016. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un livre absolument exaltant, passionnant, plein de connaissances, plein de vie. Ça fait partie, c'est le tome 5 de La traversée des temps, cette grande épopée que vous avez entreprise en 2020. Petite question, est-ce que le Covid, le confinement s'est prêté à cette réflexion, puisque vous rêvez vos personnages, vous rêvez, vous êtes un créateur nomade dans votre tête, mais après il faut s'asseoir, sédentarité, écriture, comment ça s'est passé donc cette écriture et notamment le deuxième, les deux royaumes. C'est le tome 5 dont nous allons parler aujourd'hui.
Oh, vous avez parfaitement raison, le Covid a joué son rôle. Moi qui voyage beaucoup, qui ai de multiples activités, qui monte sur scène, je suis très souvent à l'étranger pour mes livres ou pour mes pièces, tout d'un coup le Covid m'a freiné, m'a enfermé à la maison. Souvenez-vous, il faisait très beau pendant la première, le premier Covid, et il se trouvait que je voulais écrire ce grand roman à ce moment-là, et ça a été totalement déclencheur, parce qu'effectivement, j'avais trouvé le moyen de rester à la maison en partant. C'est-à-dire de m'évader d'aujourd'hui et d'ici en partant dans d'autres espaces et surtout dans d'autres époques. Et vraiment, c'est un immense voyage à la fois dans le temps et dans l'espace que me permet la traversée des temps.
Alors,
on arrive effectivement au tome 5. Je précise qu'il peut se lire, même si on n'a pas lu les autres. J'ai fait attention à ce que ça soit possible, si on a envie de plonger dans cette époque, et l'histoire que je fais se dérouler à cette époque-là, c'est-à-dire au 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ.
Alors, il est question de la Gaule dans ce tome 5 et de Rome. Alors, il y a la cueillette du gui, l'élixir de jouvence, les druides à l'ombre des grands chênes, et tout ceci est très agréable. On a l'impression de lire une bande dessinée bien dont les couleurs sont très pétantes, beaucoup de lumière autour, mais il y a bientôt l'irruption d'envahisseurs d'un genre nouveau, les Romains. Les Romains nous en parleront à la cruauté extrême très souvent. Je pense à cette révolte de Bar Corba. Les Romains, avec leur côté culturel, leurs apports, mais aussi un fond humain contestable. Alors, est-ce que vous pouvez déjà apporter un bémol à ce que je viens de dire, ou bien abonder.
Je voulais effectivement décrire les Romains comme les envahisseurs, puisque pour tous les peuples autour de la Méditerranée, le Romain est arrivé comme un envahisseur, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, l'Espagne, la France. Le Romain a été l'envahisseur. Je voulais vraiment le décrire comme ça, car il y avait vraiment des cultures tout à fait installées, tout à fait fonctionnelles, tout à fait riches, comme la culture gauloise, que je m'amuse à décrire, parce qu'effectivement, l'archéologie nous a appris beaucoup de choses ces dernières décennies sur les Gaulois, puisqu'on n'a pas de texte hein, gaulois, et on n'a que des textes des Romains qui ont tué les Gaulois. Donc on est assez peu renseigné, mais l'archéologie, heureusement, maintenant supplée et m'a permis de reconstituer comme ça le monde gaulois. Donc je voulais vraiment montrer, comme pour tous les peuples autour de la Méditerranée, la Méditerranée est devenue un lac romain parce que les Romains ont tout envahi. Et je voulais montrer qu'ils arrivent avec une culture qui n'est d'ailleurs pas forcément la leur, c'est-à-dire c'est d'abord la culture grecque,
ah oui.
Hein, mais par contre une organisation qui est vraiment la leur, c'est-à-dire des armées redoutables, le fait de percer des routes, de construire des aqueducs, d'imposer le droit, enfin voilà, ils sont en partie destructeurs, en partie civilisateurs, comme absolument tous les empires au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Et effectivement, mon héros, Noam, va d'abord être dans le refus et l'effroi, d'autant plus que, effectivement, vous l'avez dit, il y avait une cruauté inexorable du conquérant romain.
Mmh. Alors, vous avez, vos livres sont exaltant de connaissances, il y a plein de notes et de références. Vous brassez la médecine, la littérature, l'histoire. Alors, c'est une traversée des temps et c'est écrit avec des très gros livres, plus de 5 pages, avant cette épopée qui s'appelle la traversée des temps. Vos livres étaient plus mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, ça coule de source, de gros livres, et évidemment, c'est sous-tendu par cette culture incroyable, extraordinaire. Vous avez lu, même vous avez mémorisé des pages entières, vous pouvez nous dire par cœur des pages, une culture éblouissante, agrégée de philosophie, vous avez été à Normalsup, vous avez fait votre thèse sur Diderot, et alors Diderot, alors là, on a l'idée de l'encyclopédie, votre culture voilà. Vaste et encyclopédique. Vous avez été l'élève de Jacques Derrida, qui a créé l'école de la pensée autour du déconstruivisme à la suite de Heidegger. Donc, ce sont des bases, certaines des fondations dans votre culture qui sont absolument impérativement magnifiques. Là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous mettre à écrire de gros livres, des livres tous bien écrits, sous-tendus par une écriture virtuose? Vous maniez la langue française de façon extraordinaire, ce qui fait qu'on lit des pavés, mais en le souffle coupé, parce que c'est bien écrit, parce que c'est intelligent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
j'ai une théorie selon laquelle c'est le sujet qui règle le sablier de l'écriture. Un sujet vous commande d'être bref pour que le texte soit percutant, ou un sujet vous indique qu'il y a de nombreuses pages à écrire pour que la vie arrive. Et au fond, j'obéis toujours au sujet. Vous savez, ce sont les peintres qui disaient « le sujet commande ». Hein, et ben si c'est une marine, je vais prendre un format de marine. Si c'est un portrait, je vais faire un format de portrait. Les peintres ont cette façon de fonctionner. Et moi j'ai la même. Alors, il est vrai que j'ai commencé par des textes brefs parce que j'ai d'abord surtout commencé au théâtre et qu'une pièce c'est toujours bref. Puis ensuite des textes brefs. Mais de temps en temps, justement, le sujet me poussait à élargir. Par exemple, un de mes livres les plus lus aujourd'hui, ce que j'ai publié il y a 25 ans, c'est La part de l'autre, mon roman sur Hitler. Mmh. Où là, tout d'un coup, croyant faire un livre bref, au bout d'une après-midi d'écriture, je me suis dit, oulala, 400 pages. Parce qu'il allait faire, il fallait que je fasse revivre ce monde de l'Europe, d'avant 1914 et puis jusqu'à 1939. Et pour ce portrait d'Hitler et le portrait de l'autre qu'il aurait pu devenir s'il avait réussi l'Académie des Beaux-Arts, puisque c'est un double livre, à la fois un livre historique et un livre qui fait une uchronie. Et là, tout d'un coup, j'ai été obligé d'obéir au sujet, de faire un livre plus large. Alors, il m'est arrivé quelquefois dans ma vie de faire des livres plus épais, Et c'était, je vais vous dire la vérité, Solange, c'était une manière de m'entraîner. Parce que je savais que j'avais devant moi ce grand projet de la traversée des temps, parce que j'en ai eu l'idée quand j'avais 25 ans. Et bien sûr, à 25 ans, j'en étais incapable. Incapable en termes de savoir, bien sûr, puisqu'il me manquait, mais incapable aussi en termes de souffle, de pratique de l'écriture, d'artisanat assumé. Et donc, c'est pour ça que cet immense roman, puisque ça va être un roman, il y a déjà 3000 pages, mais ça sera un roman de 6000 pages, cet immense roman, je n'ai pu l'entreprendre que vraiment mûr.
Alors, ce livre, votre écriture, vos livres, sont comme traversés, votre vie est comme traversée par des plaques tectoniques qui changent, des coups de foudre. Il y a ce moment fondateur qui est, moi je pense en amont, le décès de votre maman. Vous aviez un amour fusionnel avec elle, le monde était plein d'elle. Elle vous a donné l'art, la littérature, l'amitié, la création. Et puis elle disparaît, c'est le décès. Et Journal d'un amour perdu, c'est écrit en 2019, mais c'est un livre qui c'est le premier, moi je parle de vos coups de foudre. Ensuite, il y a Ma vie avec Mozart, c'est un moment aussi, donc c'est écrit en 2005, et c'est un moment extraordinaire pour vous. Vous nous direz qu'est-ce qui s'est passé, vous étiez tout jeune. Et vous avez rencontré Mozart et ça vous a raccommodé avec le fil de la vie qui, à un moment donné, a failli se rompre.
Oui, j'avais 15 ans et j'étais dans ce moment qui est si difficile pour les adolescents. Ce moment où on fait le deuil, non pas de l'enfance, mais des 1000 rêves et des 1000 possibles qu'on avait dans l'enfance. Tout d'un coup, on se met à avoir un corps qui se dessine et on se dit, oh là là, il va falloir que j'aime et que je sois aimé avec ce corps. Est-ce que je suis bien équipé? On se rend compte aussi qu'on va vers tel ou tel métier dans la vie, vers tel type d'études. Bref, on perd tout cet infini qu'on avait devant nous lorsqu'on était plus jeune et on se met à avoir peur de la réalité qui s'affirme. Et beaucoup d'adolescents fuient ce moment-là, soit en faisant des fugues, soit en se mettant à boire, soit en prenant des stupéfiants, soit encore plus grave, en faisant des tentatives de suicide. Et moi, j'en étais là. J'avais vraiment programmé mon suicide parce que je me sentais pas capable d'affronter la vie, la réalité. Et puis, fort heureusement, une professeure de musique m'a emmené assister à des répétitions d'un opéra, à l'Opéra de Lyon. Il s'agissait des Noces de Figaro, de Mozart. Et lorsque une dame est entrée sur scène et s'est mise à chanter, j'ai été saisi, j'ai été inondé de plaisir, de joie, de lumière. Et en 4 minutes et demie, c'est le temps que durait le morceau, j'étais guéri, comme un petit bouchon de liège qui remonte à la surface, qui voit le soleil. Le désir de vivre était revenu. Et c'est pour ça que Mozart, pour moi, c'est tellement de la musique. C'est un guérisseur, c'est un guide, c'est quelqu'un qui m'a redonné envie de rester sur Terre pour découvrir tout ce qui est beau, tout ce qui est aimable, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est complexe, et de finalement de réépouser l'aventure de la vie.
Alors, en 1988, deuxième coup de foudre, vous vivez une extase mystique que vous décrivez comme une rencontre avec Dieu. Quel Dieu ? L'unique pour nous tous ? Ou bien plutôt déjà avec une connotation de christianisme, puisqu'après il y aura un autre coup de foudre dont nous parlerons directement avec Jésus, entre guillemets. Alors, donc... Vous participez alors, comment ça s'est passé ? Vous participiez à un trek dans le désert du Hoggar, au Sahara algérien, et puis vous laissez ceux qui vous accompagnent, et vous voulez avancer, alors que vous n'avez pas un sens, vous l'avez dit vous-même, de l'orientation supérieure.
Ah, plaignent même pas. Il est très inférieur. Au bout de deux, au moins au bout de deux virages, je sais déjà plus où je suis. J'ai pas été doté de ça dans mon cerveau. Mais oui, tout d'un coup, je prends une espèce d'initiative alors que nous menions une ascension d'un mont du Hogar algérien et j'ai dit, je passe devant et je me suis copieusement perdu. Et lorsque je suis arrivé au bas de la montagne, je me suis dit, bon, ben là, notre campement, on avait des chameaux et puis nos sacs de couchage dans un oued. Et le campement est derrière le rocher. Mais non, derrière le rocher, il n'y avait pas ça. Je me suis mis à appeler, personne ne me répondait. Et je m'étais perdu au cœur même d'un désert rocheux. Et sans rien à boire et sans rien à manger. Et je me suis dit, je vais passer la nuit la plus horrible de mon existence. Et c'est exactement le contraire qui s'est produit. J'ai passé une nuit hors de l'ordinaire. J'ai passé une nuit mystique, une nuit de feu. C'est le terme que j'ai employé pour le livre que j'ai consacré au récit de ce moment de ma vie. Une rencontre avec Dieu. Alors, votre question, elle est complètement judicieuse. Quel Dieu? Eh bien, oui, l'infini, le Dieu des trois monothéismes. Ça, j'en suis absolument certain. Car je crois qu'en plus, les trois monothéismes sont des manières de dire différentes, mais parlent du même Dieu. Et donc, comme je n'avais pas d'empreinte religieuse, de par mon instruction, mon éducation, c'est bien Dieu que j'ai vu. J'aurais eu une instruction juive, j'aurais reconnu le Dieu de Moïse. Mm-hmm. J'aurais eu une instruction chrétienne, j'aurais reconnu le Dieu de Jésus. J'aurais eu une instruction musulmane, j'aurais reconnu le Dieu de Mahomet. Mais non, c'était, j'allais dire, au-delà ou en deçà de cela, c'était Dieu, c'était l'absolu. Et évidemment, ça m'a complètement transformé. Après, en rentrant, puisqu'on m'a retrouvé, le guide Touareg m'a retrouvé au bout de 32 heures, en rentrant en France, je me suis mis à lire tous les mystiques de toutes les religions sur toutes les parties de la Terre. Et je me trouvais des frères et des sœurs en mysticisme. Une fraternité totalement inattendue, parce que les mystiques sont toujours des êtres singuliers, assez peu institutionnels, peu dogmatiques. Et moi, mon cœur vibrait avec j'avais trouvé Dieu et j'allais dire des frères et des sœurs partout.
Alors cette rencontre avec Dieu se précise de façon pas radicale mais de façon tellement vivante, tellement oui. Tellement incarnée, c'était en 2022 et vous c'est au Saint-Sépulcre oui. À Jérusalem. Comment oui. êtes-vous avez-vous été invité à y être?
Ah, ça c'est un coup de fil incroyable, un coup de fil du Vatican.
Ah, carrément.
Où Lorenzo Faccini, qui dirige les presses du Vatican, me dit, vous savez, Eric Emmanuel, on vous aime beaucoup ici, on aime votre foi et votre liberté. Il avait prononcé les deux mots qu'il fallait prononcer en même temps. Parce que moi, je ne suis pas un homme d'institution, je ne suis pas un homme de dogme, donc le mot liberté était extrêmement important. Je n'ai pas envie, j'ai juste envie de dire les choses comme je les ressens et comme j'ai envie de les formuler, pas de me raccrocher à quoi que ce soit. Et évidemment, la foi qui est vraiment le bol dans lequel est posée mon âme. Donc, il avait dit les deux mots importants et il m'avait dit, voilà, on rêve de vous emmener en Terre Sainte, de vous permettre de rencontrer tous les gens que vous voudrez là-bas. Et donc, je suis parti en Israël et j'ai fait un voyage extraordinaire. Alors, il souhaitait que je ramène un livre, j'avais refusé en disant, écoutez, s'il y a la matière d'un livre, je l'écrirai, mais je ne vous promets rien, il n'y a pas d'engagement. Et puis, il s'est passé des choses extraordinaires. Et le dernier jour où j'étais à Jérusalem, j'étais à l'école française biblique et d'archéologie de Jérusalem. C'est là que je logeais. Et je reçois de nouveau un coup de fil en me disant « Le pape vous attend demain. Il veut que vous lui racontiez votre voyage en Terre Sainte. » Et donc, j'ai rencontré pour la première fois François, avec qui après j'ai eu plusieurs rencontres. Et voilà, c'était un pic spirituel de ma vie pour plusieurs raisons, parce que justement à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, j'ai vraiment senti la présence, la présence de Jésus là où il a été condamné sur le Golgotha. Et après, j'ai rencontré un être très achevé spirituellement, qui était le pape François. C'est pas le pouvoir qui m'impressionnait, parce que moi, grâce à ma vie d'écrivain, j'ai rencontré des premiers ministres, des présidents, des reines, des rois, même des dictateurs. Le pouvoir ne m'impressionne pas, mais l'accomplissement spirituel, que ce soit quelqu'un qui dirige une ONG, quelqu'un qui s'occupe d'aider ses voisins à tout prix, ou le pape François, ça m'impressionne, et je me sens comme un tout petit enfant, tout à fait indigne d'être là quand je rencontre des gens comme ça.
Alors, vous faites le récit de cette seconde expérience spirituelle dans Le Défi de Jérusalem, et ça paraît en 2023, et c'est absolument saisissant. Je voulais juste peut-être souligner cette ivresse de vivre que vous avez, d'où le travail sur l'éternité, une ivresse de vivre tellement vivante qu'elle peut parfois se rencontrer la mort, le suicide. Dans votre livre, d'ailleurs, il y a des personnages vraiment incroyables, certains sont immortels, comme Noam et son épouse Noura, comme Tibor, le père de Noura. Et donc, l'immortalité, fantasme, l'immortalité et l'éternité. Alors, quel est ce chemin que vous avez emprunté?
Alors moi, ce que je montre dans la traversée des temps, enfin, progressivement, j'y vais petit à petit, c'est que l'immortalité n'est sûrement pas un cadeau. Parce que ça veut dire une vie couturée par de multiples deuils, de multiples chagrins. C'est une vie travaillée par les mêmes questions, parce que c'est pas parce qu'on est immortel qu'on est plus intelligent et qu'on a plus de réponses. Et vraiment, mon rêve à la fin du dernier tome de La Traversée des Temps, c'est que le lecteur ou la lectrice se dise « Oh mon Dieu, mais quel sens j'ai d'être mortel !» Voilà. Donc, il y a un idéal de sagesse antique en moi qui veut apprivoiser la condition humaine et l'aimer telle qu'elle est, plutôt que de la rêver différemment. Alors après, vous posez la question de, au-delà de l'immortalité, qui est une durée infinie, l'éternité, c'est-à-dire sortir du temps. Et moi, je pense intimement, au fond de ma croyance, que nous sommes appelés à l'éternité, c'est-à-dire que nous sommes appelés à sortir du temps. Et que, il me semble, j'écrirai un jour là-dessus, que parfois, lors d'expériences, par exemple les deux expériences mystiques que nous avons invoquées, j'ai vécu cette dilatation du temps où une seconde tout d'un coup se met à durer comme un mois ou un an, et qui, à mon avis, comme un parfum de l'éternité qui nous est promise.
Mmh. Alors, Noam, parlons un petit peu de l'étymologie des prénoms de vos personnages. Noam, est-ce une erreur de graphie dans le temps? Le Noah de la Bible étant devenu un Noam? Or, Noah, c'est dans l'Ancien Testament, il meurt à 950 ans, ce qui déjà était hors du temps, était atypique au niveau de la longévité, et il y a Noam aussi, qui veut dire gracieux, charmant. Alors, votre Noah, il est en même temps éternel et il est en même temps gracieux et charmant. Vous dites que c'est un frère d'âme pour vous. Que représente-t-il?
Ah, vous avez parfaitement capturé le poétique qui m'a conduit à ce prénom, parce que je suis un grand lecteur de l'Ancien Testament et Noam, Noé, Noah, bien sûr, ça s'est forgé autour de ça. Vous savez, normalement, en littérature ou dans les contes populaires, les immortels sont toujours des méchants, sont toujours des êtres terribles. Et moi, je savais que j'avais un problème en face de moi en voulant écrire ce livre, c'est que j'allais présenter... je voulais que ce soit un immortel qui nous soit fraternel, que tout un chacun puisse s'identifier à Noam, et moi le premier en écrivant. Et donc effectivement, c'est un frère à qui l'immortalité lui est tombée dessus, elle n'était pas constitutive au départ, il a été foudroyé, fulguré, et c'est depuis qu'il se rend compte que son corps se répare toujours, et que son corps lutte contre le temps, et se renouvelle pour lutter contre le temps. Et ce Noam, moi je l'aime parce qu'il est une curiosité sur jambes, parce qu'il est sensuel, il est ouvert, il vit bras ouverts, il est aussi très amoureux, très amoureux de Noura, bien sûr, mais parfois amoureux d'autres femmes sans même qu'il s'en rende compte. Ça va être le cas avec l'impératrice Livie, la femme de l'empereur Auguste pendant les deux royaumes. Mm-hmm. Et puis il a une curiosité encyclopédique. Et moi, vous avez tout à l'heure évoqué Diderot et l'encyclopédie, c'est constitutif aussi chez moi, ça. C'est le savoir encyclopédique, c'est-à-dire considérer qu'il n'y a pas d'échelle entre les connaissances, que c'est aussi important de connaître comment on fait du pain que la métaphysique de Kant ou de Hegel. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie de savoir. Et Noam est comme ça. Et c'est comme ça qu'il peut nous raconter vraiment les époques, le monde, les civilisations.
Alors Noam est foudroyé immortel à l'âge de 25 ans. Donc pendant toute l'éternité, il aura 25 ans. Et il sera beau et séduisant. C'est pareil pour Noura. Mais Noura, c'est différent pour moi, parce que Noam, lui, son âme, si son corps ne bouge pas, d'ailleurs, ça lui vaut l'animosité, l'hostilité des gens autour de lui. Mais celui-là, ça fait 20 ans qu'il est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Il est fou, c'est un sorcier. Donc, ça ne lui rapporte pas qu'une certaine liberté. Lorsqu'on a 25 ans, qu'on est beau, on est libre dans la vie. Eh bien là, c'est pas pareil. Mais ma question, c'est... Pardon de vous couper. Je vous ai coupé la parole? Non.
Oui. Oui, la vie de Noam et de Noura est une vie de clandestinité et de fuite.
Voilà.
Car il leur faut absolument cacher au reste du monde cette immortalité ou cette longévité incroyable qui, lorsqu'elle est découverte, provoque des réactions extrêmement négatives.
Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que si le corps ne vieillit pas, celui de Noam par exemple, son âme, elle, imprime les différentes émotions. Son âme continue intérieurement à s'affiner, à se détériorer. Elle vit, son âme vit, alors que son corps est transformé en statue de sel, éternel.
Exactement. Oui, ses connaissances s'élargissent, ses chagrins aussi sont de plus en plus nombreux, parce qu'il va perdre beaucoup d'êtres qu'il aime. Je dirais comme nous, par exemple, si nous aimons les animaux, nous perdons nos animaux tout au long de notre vie. Mmh. Et j'ai vu chez beaucoup de gens un moment où la personne dit « Non, mais j'ai eu trop de peine la dernière fois que j'ai perdu un animal, j'arrête. » Eh bien, Noam, il est comme ça pendant des siècles, avec nous, les humains.
Alors, il y a aussi cette passion pour les plantes, pour la science, pour les remèdes. Alors, l'idée, c'est les maths. Les maths et la science seraient-ils un langage plus juste dans le sens plus précis que les mots? Est-ce qu'on pourrait comprendre mieux la vie par les maths ou non?
Moi, je pense que la raison ne peut pas tout couvrir de la vie. Que ce soit la raison philosophique ou la raison scientifique, et par exemple la raison mathématique. Il est bien évident que la science va connaître un coup d'accélération extraordinaire au XVIIe siècle, quand Galilée aura l'idée de mathématiser la nature. Et là, ça va être le début de la physique moderne, etc., etc., et tout va s'accélérer dans la connaissance scientifique. Alors qu'avant, on n'avait pas cette idée de mathématiser la nature. Mais malgré tout, cette ivresse scientifique qui est la nôtre depuis plusieurs siècles et qui nous a permis de vivre plus longtemps, de moins connaître peur de pouvoir communiquer comme on est en train de le faire, de pouvoir maintenant avoir accès à des bibliothèques numériques, même du recours à l'intelligence artificielle. Malgré cette extase matérielle, tout ne relève pas d'une appréhension rationnelle ou scientifique. Nous sommes aussi faits de sentiments, nous sommes aussi faits d'émotions, nous sommes aussi faits de sensations, et puis nous sommes aussi faits de questions auxquelles la science ne répond pas. Les grandes questions de la métaphysique, qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi est-ce qu'un jour je dois mourir, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie, est-ce que j'ai raison d'aimer ou de ne pas aimer, ou d'aimer de telle ou telle façon. Toutes ces questions-là, qui sont pour nous, au fond, les plus importantes, elles ne sont pas couvertes par la science. Elles relèvent de la réflexion personnelle, elles relèvent de la philosophie, elles relèvent de la spiritualité, de la religion, mais elles ne peuvent absolument pas être encadrées par la science. Donc, je trouve que le philosophe Blaise Pascal disait tout en disant que nous sommes, notre esprit est à la fois cœur et raison, mais que ce sont les deux parties de l'esprit.
Tout à fait. Et je voulais que vous nous parliez peut-être de Yuval Noah Harari. L'avez-vous rencontré? Lui, il a écrit une brève histoire de l'humanité. Alors donc, c'est un rêve souvent des personnalités très cultivées, très érudites, très spécialisées en connaissances, que ce rêve de l'histoire de l'humanité. Est-ce que l'Ancien Testament ne suffit pas?
Ah moi, je crois qu'il faut multiplier les sources de compréhension et les sources de sens. C'est-à-dire que oui, je vais vous répondre, oui, l'Ancien Testament ne suffit pas. Il est là, et moi, vous avez vu dans la traversée des temps, j'évoque énormément d'événements qui sont dans l'Ancien Testament.
Ah, et oui.
Je les retravaille à ma façon. Voilà, nous avons finalement des tas de manières d'aborder les phénomènes, et aucune n'est définitive. Et je pense que c'est la combinaison de toutes ces manières qui peut au contraire produire quelque chose d'intéressant. Alors oui, le livre de Yuval Harari, je l'ai lu avec un immense bonheur. J'ai aussi découvert que nous avions les mêmes lectures, puisque je voyais ses notes et son appareil critique. Et puis j'ai eu le bonheur aussi de le rencontrer lors d'une grande librairie que nous avons fait ensemble, l'émission de télévision. Mmh. Et il a fait ce que j'aurais voulu faire si je n'avais pas décidé, moi, d'emprunter la voie du roman. Lui a fait un merveilleux essai qui traverse l'histoire et qui essaie de comprendre les grandes bascules, les grandes transformations. Et moi, je voulais mettre ça dans de la chair, dans de la sensation, dans les sentiments, dans le vivant, ce que permet le roman.
Voilà, donc l'histoire romancée, c'est-à-dire soufflée par la sensibilité humaine, par l'imaginaire.
Oui.
C'est un aliment plus miscible avec l'être humain. Lorsqu'on lit, c'est moins âpre et ardu qu'un essai purement philosophique. Là, on est porté, comme vous avez parlé du petit bouchon de Liège, c'est un petit peu comme ça qu'on lit votre livre. Mais bien sûr, il y a votre culture encyclopédique, références et notes explicatives innombrables, vos lectures, des voyages que vous faites avec sensibilité et expertise, vous partagez avec passion, on a parlé de passion, de goût de vivre, de désir, et brio, et souffle, et talent, tout votre vie d'esthète et de savant, vous partagez ça avec le lecteur, donc la lecture est vraiment fascinante. Éric-Emmanuel Schmitt, je vous remercie infiniment de nous avoir présenté votre dernier livre, Les Deux Royaumes, c'est le tome 5 de la Traversée des Temps, et ce fut un moment passionnant. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. avec C'est Solange.
Thank you.